RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Martin Guez. L'Iran met en avant sa riposte au troisième jour de confrontation militaire avec Israël.
Une riposte lourd bilan humain sur le territoire israélien, un bilan qui s'alourdit. Nous appellerons notre correspondant Michel Paul à Jérusalem. L'aviation aérienne israélienne qui continue, elle, de viser des cibles stratégiques dans la région de Téhéran, la guerre qui s'installe au Moyen-Orient. Nous y revenons longuement en début de journal. Et après cette édition, avec Mohamed Ahmadinejad, ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, il sera votre invité dans une dizaine de minutes, Julien Coquelroem.
À la une aussi ce matin, un anniversaire à deux visages pour Donald Trump.
Le président américain qui a fêté ses 79 ans par un immense défilé militaire à Washington, pendant que des milliers de personnes ont battu le pavé dans tout le pays pour s'opposer à la politique du chef d'État républicain. En France, Nicolas Sarkozy déchu de sa Légion d'honneur, une première pour un chef d'État français depuis le maréchal Pétain en 1945. Et puis enfin, un début au petit trot, 0-0 entre Miami et Al Ahly pour le début de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis.
Troisième nuit successive de bombardements israéliens sur le territoire iranien.
L'Iran, où les examens sont suspendus dans la plus grande université du pays, la bourse de Téhéran fermée pour 3 jours, des premiers habitants de la capitale qui ont commencé à fuir la ville, alors qu'Israël a frappé des cibles stratégiques, l'aviation de l'État hébreu qui a visé des dépôts de carburant et le ministère iranien de la Défense ont fait le point sur les opérations de la nuit avec Nicolas Falaise du service international de RFI. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, la République islamique d'Iran ne s'étend pas ce matin sur ses frappes israéliennes, mais elle met plutôt en avant sa riposte.
Oui, un coup d'œil ce matin sur les sites internet des agences de presse iraniennes montre qu'elles consacrent davantage d'articles au tir de cette riposte iranienne contre Israël plutôt qu'au bilan des frappes de l'État hébreu sur le sol de la République islamique. Notre correspondant en Iran signale ce matin des détonations entendues dans la nuit à Téhéran. Les autorités iraniennes reconnaissent que 2 dépôts de carburant ont été pris pour cible près de la capitale. Des colonnes de fumée s'en échappaient ce matin. Des frappes signalées aussi sur des bases militaires proches de Téhéran, mais également dans d'autres régions du pays, notamment près d'Ispahan ou de Bandar Abbas.
Téhéran brûle, déclare ce matin le ministre iranien de la Défense sur les réseaux sociaux.
Le ministre israélien de la Défense déclare que Téhéran brûle sur les réseaux sociaux. Israël qui revendique des frappes sur le ministère iranien de la Défense et sur des cibles du programme nucléaire reste ce matin une question sans réponse. Quel impact réel de ces frappes israéliennes sur les installations militaires et surtout nucléaires de la République islamique? Et jusqu'à quel point ces bombardements peuvent-ils endommager, ralentir, déstabiliser, voire détruire les installations servant à enrichir de l'uranium?
Merci Nicolas Falaise. Donald Trump a lu ce matin menacé l'Iran d'une réplique maximale si Téhéran attaquait les États-Unis. Le président américain a réaffirmé que son pays n'avait rien à voir avec les attaques israéliennes en cours à Téhéran, frappe dont on ne connaît pas le bilan.
La riposte iranienne a fait de lourds dégâts sur le territoire israélien.
La quasi-totalité des habitants d'Israël a passé la nuit dans les abris. Les frappes iraniennes ont touché la région d'Haïfa au nord, mais aussi le centre du pays et l'ouest de Jérusalem. Jérusalem, où l'on retrouve notre correspondant Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez même passé une partie de la nuit dans ces fameux abris. Le bilan humain de la nuit est lourd en Israël.
Oui, les attaques de drones en provenance d'Iran se poursuivent. En l'espace d'une heure, l'armée israélienne affirme en avoir intercepté pas moins de 7 ce matin, et cela après une nuit particulièrement meurtrière. Le bilan, toujours provisoire, a été réajusté. En tout, 10 morts, près de 200 blessés, dont certains dans un état grave, et surtout encore 7 personnes portées disparues. Dans le nord, lors de la première salve, ce sont 4 femmes qui ont trouvé la mort dans la ville arabe de Tamra, dans le nord d'Israël, en Galilée. Elles appartiennent toutes les 4 à la même famille. Quelques heures plus tard, un nouveau tir de missile a provoqué 6 morts, dont 2 enfants, dans le centre du pays, à Bat Yam, une banlieue du sud de Tel Aviv. Un impact direct sur un immeuble et les dommages sont importants. Les recherches de survivants se poursuivent encore à l'heure actuelle. Des tirs également sur la ville de Rehovot. Excusez-moi, l'institut où se trouve l'institut universitaire Weizmann qui a été également touché. Il s'agissait d'une attaque combinée, 100 de missiles et des drones qui ont envoyé pratiquement l'ensemble de la population israélienne dans les abris. Des experts vérifient si certains des missiles étaient téléguidés, ce serait une première. Et sur place, des sinistrés affirment aux médias que ce sont des scènes qui rappellent ce qui se passe à Gaza.
Merci beaucoup, Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI. Les pourparlers prévus ce dimanche entre l'Iran et les États-Unis à Oman ont été annulés. On reparle de ce conflit entre Iran et l'Israël juste après ce journal avec l'ambassadeur d'Iran en France, Mohamed Ahmadinejad. Il sera votre invité, Julien Coquelroem.
Aux États-Unis, deux marches, deux ambiances.
Une marche au pas à Washington. 7000 soldats ont défilé pour les 250 ans de l'armée américaine et pour les 79 ans. Donald Trump, tant qu'ailleurs dans le pays, des milliers de citoyens ont battu le pavé. Une marche contre la politique du président républicain. Il était au moins 20 000 dans les rues de Los Angeles, une semaine après de premières manifestations contre l'intervention de la garde nationale et de la police fédérale de l'immigration. Une nouvelle marche de colère dans la Cité des Anges. Reportage à Blagelay.
L'éducation, pas la déportation. Parmi les droits fondamentaux désormais menacés par l'hôte de la Maison Blanche, selon les manifestants, il y a celui d'aller à l'école. Sarah est professeure de lycée à Los Angeles. Elle a regardé avec effroi les interventions de la police dans les établissements scolaires.
Je suis horrifiée. Plusieurs de mes étudiants ne sont pas venus aux examens de fin d'année. Ils étaient trop inquiets d'être pris pour cible, kidnappés. Ils avaient aussi peur pour leur famille. Cette politique empêche tout simplement les gens de sortir et de vivre leur vie, et cela inclut d'aller à l'école.
Selon plusieurs organisations des droits de l'homme, les descentes de la police fédérale de l'immigration se font sur des bases raciales. Cette menace a bouleversé le quotidien des immigrés sans papiers et de leurs enfants, comme explique Rose.
J'ai peur pour mes parents, de ce qui pourrait leur arriver. Ma mère est ici depuis 30 ans, elle a toute sa vie ici, ses enfants. C'est terrible de séparer des familles. Depuis que les raids ont commencé à Los Angeles, ma mère ne peut pas sortir. Elle ne peut plus travailler. Ma famille se demande quoi faire, quels endroits éviter. Ça a des conséquences sur nos vies, notre travail et sur nos revenus.
Sous l'œil de la garde nationale déployée désormais dans la ville, la marche a été largement pacifique. Seuls quelques gaz lacrymogènes ont été lancés après la dispersion du cortège. Abla Junaidi, Bertrand Eclair, Los Angeles, RFI.
Les États-Unis par ailleurs endeuillés par ce double meurtre. Melissa Ortman, élue démocrate du Minnesota, et son mari ont été tués à leur domicile. Un acte délibéré de violence politique, selon le gouverneur de l'État. Le suspect est activement recherché.
RFI.
RFI 9h07 à Paris, c'est une première depuis 80 ans, un président français déchu de sa Légion d'honneur.
Et le président et le précédent est peu flatteur pour Nicolas Sarkozy. La dernière fois qu'un chef d'État français s'était vu retirer la plus haute distinction nationale, c'était le maréchal Pétain. En 1945, Nicolas Sarkozy qui perd sa décoration après avoir été condamné à un an de prison ferme pour corruption en décembre dernier dans l'affaire des écoutes. L'arrêté privant Nicolas Sarkozy de sa Légion d'honneur a été publié aujourd'hui, Valérie Gasse.
Nicolas Sarkozy est le deuxième chef de l'État français privé de cette distinction après le maréchal Pétain condamné pour haute trahison. L'ancien président de la République était menacé de cette sanction depuis sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme, qu'il avait d'ailleurs obligé à porter un bracelet électronique pendant quelques mois. Il s'agit d'une procédure automatique à laquelle Nicolas Sarkozy n'aura finalement pas échappé. La peine prononcée étant définitive après le rejet de son ultime recours en France, le retrait de la Légion d'honneur et de droit. L'arrêt a été signé par le général Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur. Cette hypothèse déjà évoquée avait provoqué des critiques dans la famille politique de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron lui-même avait fait part de son opposition à appliquer cette sanction à l'ancien chef de l'État en déclarant « De mon point de vue, là où je suis, je pense que ça ne serait pas la bonne décision. Je pense que c'est très important que les anciens présidents soient respectés. » Mais Emmanuel Macron, même s'il est détenteur du titre de grand maître, n'a pas pu intervenir dans cette procédure.
Emmanuel Macron, grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Explication signée Valérie Gasse.
Au Niger, deux journalistes de Sahara FM ont été incarcérés.
Nos confrères de cette radio privée avaient été arrêtés début mai à Agadez, au nord du pays. Ils ont été incarcérés pour atteinte à la défense nationale et pour complot contre l'autorité de l'État. Ils sont accusés d'avoir repris une information diffusée par le média en ligne LSI Africa sur une affaire concernant le Niger, la Russie et mêlant contrats commerciaux et espionnage. Ils sont emprisonnés dans la prison de Kolo, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Niamey, une situation que déplore leur avocat, Maître Ahmed Maman.
Déjà, le fait que des journalistes soient en prison, c'est particulièrement grave dans notre pays, qui reconnaît une certaine protection des journalistes pour leur permettre de faire leur travail. L'éloignement aussi peut s'analyser en une aggravation de leur situation, parce que même pour leur avocat, pour les visiter, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça aussi, s'agissant de la famille, il va falloir faire un long trajet pour les visiter. Je précise qu'ils sont sereins, en tout cas ils croient à la justice, Ils espèrent que leur situation soit réglée et qu'ils recouvrent leur liberté pour ceux qui ont été déposés à la prison. Ils sont de bonne foi, ils l'ont toujours clamé. Il n'a jamais été question pour eux de poser des actes dans le sens de nuire à leur pays. Mais notre, en tout cas, conviction est que, à l'issue de cette instruction, de cette information, c'est que le juge d'instruction se rendra compte que c'est un dossier vide et qu'il n'y a pas lieu à poursuivre davantage et qu'il sera amené à les libérer après avoir investigué.
Les propos recueillis par Clotilde Hazard.
Et puis on termine à Miami où Léo Messi n'a rien pu faire contre Al Ahly.
Les Égyptiens et leur gardien Al Shanawi qui ont tenu en respect l'Inter Miami 0-0 en ouverture de la Coupe du Monde des clubs. Un format XXL à 32 équipes qui débute piano piano, Thomas de Saint-Léger.
Sur des rythmes latinos, les roses de l'Inter et les rouges du Al Ahly colorent le Hard Rock Stadium de Miami quasi plein. C'est une bonne nouvelle. Vu le peu de publicité en ville, il a fallu casser les prix.
$23 pour 3 tickets.
Un bon plan proposé ces derniers jours par les écoles de la région à leurs étudiants, comme Elisabeth et Aline.
J'ai toujours rêvé d'aller voir un match de soccer. Là, c'était possible à un bon prix. D'ailleurs, beaucoup de nos amis sont ici, aux quatre coins du stade. Grâce à ça, j'ai aussi pu inviter mon père et ma mère.
Sur le terrain, match nul dans les tribunes, avantage Al Ahly face à un public américain plutôt spectateur. Les Égyptiens sont aussi nombreux que motivés.
C'est cher de venir ici, mais on aime tellement notre club. Il fait partie de nos vies et surtout, c'est un grand événement, un moment historique. Il fallait qu'on soit présent.
Moment important aussi pour les joueurs, Wessam Abu Ali, attaquant palestinien du Al Ahly.
C'était sympa, c'est la première fois que je joue une Coupe du Monde des clubs, il faut en être fier. Pour beaucoup de joueurs, c'est nouveau, c'est une grande expérience, l'occasion de se montrer individuellement et collectivement.
Et ce dimanche, d'autres vont pouvoir se montrer. 4 matchs sont prévus, dont PSG Atlético de Madrid en Californie. Thomas de Saint-Léger, Miami RFI.
Voilà, mondial des clubs qui se poursuit aujourd'hui, avec notamment également les Allemands du Bayern Munich opposés aux Néo-Zélandais d'Auckland City.
Merci Martin Guèze. Nous on continue de suivre et de commenter dans RFI Matin l'escalade militaire entre l'Iran et Israël. On en parle dans un instant avec notre invité, l'ambassadeur d'Iran en France, Mohammad Amin Nejad. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Le tour de la presse internationale avec vous, Catherine Potet, et à la une, Israël et l'Iran qui se rendent coup pour coup.
Des trajectoires lumineuses dans la nuit, des immeubles éventrés, des secouristes qui tentent de venir au secours des victimes. Ce sont de nouveau des images de guerre que renvoie ce matin la presse internationale. À 1900 km de distance, deux villes tremblent sous une pluie de missiles, titre le Times, qui a interrogé des Israéliens et des Iraniens. Le quotidien britannique a contacté par téléphone Sharam, un journaliste iranien, qui raconte vendredi matin, alors que les explosions détruisaient sa maison, faisant trembler les murs et les fenêtres, ils n'ont pu avec sa femme que se réfugier sous la table de la salle à manger pour prier. Sharam précise que la dernière fois qu'il a eu aussi peur, c'était en 1980, lorsque les Irakiens avaient tiré sur Téhéran. À l'époque, dit-il, nous avions des sirènes et des abris. Aujourd'hui, nous n'avons même plus ça. Côté israélien, le Times of Israel parle de destruction totale. Les Israéliens, nous dit le journal, décrivent la peur et le chaos alors que les missiles iraniens détruisent leur maison. Une photo montre une policière portant un bébé dans ses bras. Les secouristes recherchent les autres membres de la famille.
Quels sont les objectifs de Benjamin Netanyahou derrière l'offensive israélienne contre l'Iran? La question est posée.
Posée notamment par le Devoir. Quand Israël cible l'atome pour faire tomber les mollahs, titre le journal canadien. Certes, concède le Devoir, l'objectif affiché est de mettre à terre les capacités nucléaires du plus grand ennemi de Tel Aviv, mais celui qui l'est un peu moins est de faire tomber définitivement le régime des Mollahs pour faire entrer Téhéran dans une nouvelle ère moins belliqueuse et plus respectueuse de l'existence de l'État juif. Avis partagé par le Japan Times, pour qui les attaques d'Israël contre l'Iran laissent entrevoir un objectif plus vaste, celui d'un changement de régime. Objectif revendiqué par Benjamin Netanyahou lui-même, car, souligne le quotidien japonais, le premier ministre israélien s'est adressé directement aux Iraniens
en leur disant « En atteignant notre objectif, nous ouvrons également la voie pour que vous puissiez obtenir votre liberté. Le régime n'a jamais été aussi faible. C'est l'occasion pour vous de vous lever et de faire entendre votre voix », a donc déclaré Benjamin Netanyahou. La crise iranienne ne se résume pas à la crise nucléaire, titre de son côté Le Soir. Le quotidien belge a interrogé le chercheur Clément Terme et lui a demandé si les négociations avec les États-Unis étaient enterrées, ce à quoi Clément Terme répond « Cela dépend si la République islamique survit à ce choc militaire et à la contestation interne. Le régime est en échec, il faudra voir l'évolution dans les prochaines heures, les prochains jours. »
48 heures après les premières frappes israéliennes sur l'Iran, la presse souligne également qu'Israël a préparé ses attaques depuis longtemps.
L'opération Rising Lion, Lion qui se dresse, a été conçue et mise en place de longue date sans que les services secrets iraniens s'en aperçoivent, remarque la Tribune Dimanche, qui parle d'un coup audacieux parfaitement exécuté, digne des meilleurs films d'espionnage. En quelques heures, nous dit le journal français, l'armée israélienne a décapité une partie de la chaîne de commandement iranien, éliminé 9 scientifiques chargés du programme d'enrichissement nucléaire de Téhéran et, pour finir, ébranlé cette république islamique qui terrorise le Moyen-Orient et le reste du monde depuis presque un demi-siècle. Le Wall Street Journal, de son côté, nous raconte comment le Mossad israélien a fait passer en contrebande des pièces de drones pour attaquer l'Iran de l'intérieur. Israël, remarque le quotidien américain, a mis plusieurs mois à faire entrer en contrebande des pièces pour ses centaines de drones quadricoptères, avec 4 hélices, équipés d'explosifs dans des valises, des camions et des conteneurs, ainsi que des munitions qui pouvaient être tirées depuis des plateformes sans pilote. Information obtenue de sources bien informées, précise le Wall Street Journal, ces mêmes sources selon lesquelles de petites équipes armées de ce matériel ont été déployées près des positions de la défense aérienne et des sites de lancement de missiles iraniens.
Enfin, côté iranien, Catherine, quelles sont les réactions ?
Le Tehran Times annonce que les opérations iraniennes contre Israël vont s'intensifier. Le quotidien publie un communiqué des gardiens de la révolution selon lequel des dépôts de carburant pour avions de combat ainsi que des centres d'approvisionnement en énergie du régime ont été ciblés par des essaims de drones et de missiles. Les gardiens de la révolution, le bras armé du régime, selon lesquels les opérations s'étendront si les atrocités et les frappes de l'ennemi se poursuivent.
Le tour de la presse, Catherine Potet, merci beaucoup. Et pour aller plus loin, pour entendre aussi la voix de Téhéran ce matin, notre grand invité, Mohamed Amin Nejad, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur d'Iran en France. Nicolas Falaise du service international de RFI est à mes côtés pour échanger avec vous. Les échanges de frappes entre l'Iran et Israël qui ont donc continué cette nuit avec une fois de plus des frappes nombreuses de l'armée israélienne sur votre territoire, sur des cibles nucléaires, mais aussi sur le ministère de la Défense à Téhéran et pour la première fois sur des installations pétrolières et gazières. Quels sont les dégâts de cette nuit selon vos informations ?
Bonjour et merci. Avant de parler sur les dégâts, il faut en parler sur les intentions. Parce que selon le rapport que votre collègue a présenté, le nucléaire et tout ça, c'est un prétexte. En fait, il y a une tentative de bouleversement d'un régime élu par son peuple. Donc, il faut le savoir, il faut que l'opinion internationale le sache bien qu'il y a un pays qui s'autorise à attaquer à n'importe quel pays quand il sent qu'il est coupable à ses propres yeux. Et quand on met dans le contexte que l'Israël, dans ses 75 années d'existence, avait attaqué 10 pays, 10 pays dans la région, nul voisin n'a pu être à l'abri des attaques israéliennes. Bien sûr, il y a une collaboration internationale, un soutien ici et là, mais ça veut dire que toujours il y a eu des prétextes, il y a eu des préparations, il y a eu des tentatives malicieuses, secrètes, comme vous dites, à l'intérieur de l'Iran.
Alors,
il y a eu un plan de renversement.
On va développer toutes ces questions, mais oui. Sur les dégâts et sur le nucléaire, puisque vous parlez du nucléaire, oui. Depuis vendredi, à quel point votre programme nucléaire a-t-il été endommagé, affaibli, ralenti par les frappes israéliennes ?
Notre activité nucléaire qu'il s'agit de l'enrichissement d'uranium, a eu toujours une nature pacifique.
Ce n'est pas ce que disent les Occidentaux et l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui souligne que aucun autre pays n'a autant d'uranium enrichi à un tel niveau pour des raisons civiles.
Vous voyez, il n'y a pas une interdiction dans les traités concernant, comme le traité non-prolifération sur les, l'uranium enrichi et le montant et le tonnage, le kilogramme, tout ça. Donc, ce sont parmi les droits indéniables des membres signataires du traité de non-prolifération d'avoir les activités pacifiques, civiles, mais autant qu'il n'y a pas de preuves qu'il y a une déviation vers l'aspect militaire, sur les intentions, on ne peut pas juger. Il y a des discussions techniques, des rapports techniques sur lesquels on peut toujours parler, comme cela a été le cas il y a plus de 20 ans maintenant entre nous et l'agence et pays membres de l'agence.
Nicolas Falaise a une question pour vous.
Monsieur l'ambassadeur, ce dialogue, cette négociation sur le fond du dossier, le nucléaire, est-ce que cela peut reprendre dans les prochains jours, les prochaines semaines?
Pourquoi pas? On n'a jamais cessé les négociations. On n'a jamais. Vous vous souvenez quand il y a eu en 2015? Il y a eu des soupçons et des prétendus avant 2015. On est entré dans la discussion. Il y a eu un droit reconnu pour tous les membres de la traité de non-prolifération d'avoir des activités civiles pacifiques d'enrichissement. Et les autres pays signataires qui avaient déjà cette capacité avaient devoir de les aider. À partir du moment les Américains, entre nous et les Américains, on s'est mis d'accord sur une reconnaissance du droit des Iraniens d'avoir accès à cette science. À ce moment-là, on a commencé de coopérer avec agence plus qu'avant, ce qui nous a vraiment blanchi toutes les accusations. Et puis après, dans cette circonstance-là, qu'on a signé un accord avec 5+1, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine et la Russie et la communauté internationale par le biais d'une résolution à l'ONU, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a entériné cet accord et cette situation. Et depuis, il y a eu des inspections régulières. Si on compare le budget de l'AIEA consacré à la supervision et l'inspection iranienne, on peut comprendre que plus de tiers de son budget, plus de 40% des inspections se fait en Iran. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas eu d'une preuve de déviation de l'activité nucléaire iranienne vers militaire.
Alors justement, l'AIEA a quand même accusé et condamné l'Iran pour le non-respect de ses obligations pas plus tard que jeudi. Et votre pays a annoncé hier qu'il ne coopérera plus comme auparavant avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Qu'est-ce qui va changer?
D'abord, celui qui a été cité dans le rapport de l'agence, ce n'était pas que l'Iran a dévié et a renoncé de ses obligations dans le cadre de la traité de non-prolifération. C'est la première chose. Il y a eu deux coopérations demandées s'agissant de cas avant 2000. Tandis qu'à 2005, toutes les activités supposées douteuses ont été entérinées à l'époque à travers des inspections et des discussions et des preuves et des rapports qu'on a présentés. Maintenant, quand il s'agit de la dernière révolution que vous avez fait allusion, quand il y a, selon la Charte des Nations Unies, y compris les conventions additionnelles à la Convention de Genève, les résolutions, aucun pays n'a le droit à attaquer les installations atomiques. Tandis que l'Israël a fait ça unilatéralement, illégalement. Lui, il a des armes atomiques il est hors de l'inspection de l'Agence de l'énergie atomique, à cette circonstance-là, qu'une partie de notre installation a été atteinte par les bombardements illégaux, agressions illégitimes des Iraniens. Comment vous voulez savoir, vous voulez accepter qu'encore une fois, on fait un accès tout azimut et on met en danger notre peuple, la vie de notre peuple, qui sont dans l'environnement où une explosion peut abîmer leur santé.
Donc on comprend que vous allez restreindre les accès à l'AIEA. Pour en revenir à l'offensive israélienne, l'Iran a-t-il été pris par surprise quand on entend que le Mossad était déployé sur le territoire depuis des mois, qu'il a fait rentrer du matériel, qu'il était installé sur le sol iranien? Y a-t-il eu un échec des renseignements iraniens à repérer et empêcher ces incursions, à prévoir l'offensive qui se préparait?
Depuis 2009, Israël a essayé maintes fois de pénétrer dans les milieux nucléaires avec cyberattaques ou avec l'envoi d'agents, d'espions, d'agents de renseignement, d'envoyer à l'intérieur et aussi recruter à l'intérieur du pays. Donc ce n'est pas quelque chose d'étonnant parce que la nature, il faut le dire, la nature de ce régime est de déstabiliser toute la région, malheureusement, parce que nous avons besoin de notre peuple, les peuples de la région ont besoin de la stabilité et de la paix pour pouvoir se développer. Nous ne voulons pas une guerre dans la région et nous souffrons plus que les autres par une guerre. Et puis nous avons attaqué pendant les 300 dernières années à n'importe quel pays voisin et autres. Mais Israël a attaqué 10 pays et il y a la liste, ça ne s'arrêtera pas là-bas, tout le monde sait, parce que de la mer à la rivière, il y en a beaucoup, même au-delà.
L'Iran, en tout cas, riposte pour l'instant. Combien de temps votre pays peut-il tenir face à un conflit d'une telle intensité, face à des frappes aussi fortes qui affaiblissent vos capacités militaires?
Sur les conséquences et les dégâts, je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas sur le terrain, je n'ai pas les informations,
Mais l'Iran a-t-il encore les capacités de se défendre?
Il faut le souvenir. Nous avions une révolution très jeune quand l'Irak nous a envahis. Et cela pendant 8 ans, à l'aide de tous les pouvoirs du monde à l'époque. Mais les Iraniens ont combattu avec le sang contre cette agression et à la fin du compte, ce sont eux qui ont réussi de vraiment gagner et de ne pas permettre pour la première fois dans l'histoire qu'un centimètre de pays soit occupé ou soit enlevé de l'Iran. Donc c'est le même sentiment, c'est la même décision et les Iraniens vont battre jusqu'au fin.
Nicolas Falaise.
Souffrez-vous aujourd'hui, l'Iran souffre-t-il aujourd'hui de l'affaiblissement de son réseau d'alliances dans la région avec l'effondrement militaire du Hezbollah l'année dernière, la chute du régime de Bachar el-Assad qui était l'un des alliés de l'Iran aux frontières d'Israël? Est-ce que l'Iran n'est pas finalement bien seul aujourd'hui dans cet épisode de confrontation militaire?
Ben non, à vrai dire, l'Iran était toujours seul. Comme je vous ai dit, quand en 1980, la guerre a été imposée à l'Iran, à l'époque, il n'y a pas eu ni Bachar el-Assad de telle imagination, parce qu'on avait toujours des relations respectueuses avec le père Bachar el-Assad, avec l'enfant, mais on n'était pas un protecteur sans limite de ses actions, plutôt. Et puis, le Hezbollah n'était pas là à l'époque. Le Liban était occupé par Israël. L'Iran ne s'appuie pas que sur son peuple et que sur son capacité, sa capacité de se défendre légitimement selon les règles internationales. Donc, on ne semble pas jamais affaibli ou que ce soit.
Merci Mohamed Amin Nejad, ambassadeur d'Iran en France, invité ce matin de RFI. Très bonne journée.
Merci beaucoup.
Et à bientôt sur la Radio du Monde. Il est bientôt 7h30 en temps universel. Et l'info continue, à tout de suite.
Du 13 au 22 juin, la Maison des Cultures du Monde célèbre le Festival de l'Imaginaire pour une dernière édition. Au programme, chants rituels de Syrie, flamenco d'Andalousie, maître des musiques et des danses coréennes ou théâtre d'ombre du Brésil. Rendez-vous au Théâtre de l'Alliance Française et dans les lieux partenaires pour cette dernière édition du mémorable Festival de l'Imaginaire avec des artistes venus du monde entier. Plus d'informations sur festivaldelimaginaire.com en partenariat avec France Média Monde. Le Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris présente le nouveau parcours de la collection permanente, l'une des plus grandes collections mondiales avec 9000 instruments et œuvres d'art. Les instruments d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique sont exposés dans un parcours inclusif, retraçant l'histoire de la musique du XVIe siècle à aujourd'hui, en montrant les connexions et influences entre continents. Plus d'informations sur philharmoniedeparis.fr, en partenariat avec RFI.